Voilà, bonjour à vous tous, merci donc d'être présents. La voix que vous entendez au loin dans la librairie, elle provient de l'espace bar, où débute à l'instant la rencontre littéraire en compagnie de Nicolas Ancion, qui nous a rejoint pour la présentation de son nouveau roman paru chez Luc Pire, le titre « L'homme qui valait 35 milliards ». Nicolas Ancion, merci de nous avoir rejoints.
Avec plaisir, merci à vous.
Alors un titre en forme de chiffre, car finalement aujourd'hui tout est devenu chiffre et on a perdu le sens des choses et surtout malheureusement le sens des êtres.
Oui, mais je pense que c'est un des fils rouges à travers le roman. Une des interrogations que moi je me pose beaucoup, c'est que on a l'air d'être d'accord sur pas grand chose en fait sur cette planète, si ce n'est sur l'idée que tout est chiffrable et que tout peut s'évaluer. Et pour moi c'est quelque chose contre lequel il faut faire résistance, parce que c'est avec des excuses comme celle-là qu'on peut considérer que finalement fermer une entreprise c'est logique, que mettre les gens au chômage c'est logique, que tout ça correspond à une logique qui finalement en plus va d'elle-même et s'imposerait d'elle-même, puisque sur les chiffres on ne discute pas, on a appris ça au cours de mathématiques, il n'y a jamais qu'une solution à un problème. Et donc moi je suis personnellement convaincu que d'abord il n'y a pas des problèmes et donc il n'y a pas des solutions, qu'il y a certainement des choses à débattre, mais certainement pas à résoudre, de manière mathématique.
Voilà. Alors, des choses à dire et sans doute également des choses à écrire. Je dirais, est-ce que votre résistance à vous, c'est justement écrire pour trouver du sens, pour donner du sens justement, pour aller au-delà de ces rapports économiques qui dérèglent finalement aujourd'hui la vie dans laquelle on vit, et surtout dans votre roman également?
Oui, mais j'ai un jeu de mots qui m'est venu en tête quand vous avez dit ça, pour trouver du sens. J'ai plutôt l'impression que c'est écrire face à une impuissance. On a l'impression dans ce monde aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne vont pas correctement, qui ne vont pas dans le bon sens, et que, comment vais-je dire ça, personne ne fait rien, voilà, c'est ça. Et donc ne rien faire, c'est certainement pas une solution, et moi je sais pas faire grand chose d'autre qu'écrire. Donc face à la situation qui est celle que moi je vis depuis que je suis gamin, j'ai grandi à Liège quand j'étais petit, c'était la fermeture des charbonnages, donc on les avait fermés juste avant que j'arrive, ils avaient bien fait les choses. Et puis on a commencé à restructurer l'acier. C'était il y a 38 ans. Et donc, on restructure l'acier depuis 38 ans pour arriver, en fait, au destin final qui est arrivé il y a quelques mois. On finit par éteindre les hauts fourneaux. Et donc, ça a pris 38 ans pour qu'ils le fassent en douceur, comme ils disent. Mais tout ça me donnait l'impression que, alors qu'on a annoncé en 2002 qu'on allait fermer pour de bon, pour eux, voilà, personne n'a réagi, que politiquement on n'en parle pas, que dans la ville de Liège on continue à faire ce qu'on fait le mieux à Liège, c'est-à-dire en boire pour faire la fête. Et puis et cette impression moi me trottait en tête que finalement j'avais parfois l'impression d'être le seul à me rappeler que ça allait se fermer et que ça allait fermer. Et puis du coup j'ai pas eu grand chose d'autre à faire qu'à faire un roman où des gens se lèveraient et essaieraient non pas d'empêcher que ça ferme, mais de réagir une fois que c'est fermé. Voilà.
Alors celui qui va réagir à travers votre plume, à travers vos pages en ce roman, c'est Richard, un artiste. Il va réagir parce que finalement, si tu vois un homme pleurer, il faut changer le monde. C'est sa mentalité, c'est ce qu'il va essayer de faire avec ses moyens.
Oui, avec ses moyens à lui. Enfin, c'est surtout la phrase qui lui vient en tête au moment où il est face à l'ouvrier qu'il a vu pleurer quand il a été licencié. Donc il lui dit, il dit cette phrase, à mon avis, pas tellement parce que c'est un leitmotiv pour lui, mais plutôt parce que c'est celle qui lui tombe sous la langue à ce moment-là. Et donc il va essayer de changer le monde, mais c'est complexe parce que c'est pas Robin des Bois, Richard. Donc c'est un type, il n'est pas très doué. Ensuite, je pense qu'il essaie aussi de faire quelque chose pour lui. Dans son travail d'artiste, il est un peu comme beaucoup de gens. Il n'est pas arrivé grand part. Ça se dit pas ça. C'est bien, il n'est pas arrivé grand part. Je vais lancer l'expression, je la trouve belle. Voilà, il n'est pas arrivé grand part. Et donc, j'ai l'impression que c'est québécois. Et comme il n'est pas arrivé grand part, il voudrait aller plus loin. Et aller plus loin, ben, ça l'arrangerait bien finalement. Kidnapper Mittal, c'est un beau concept pour un artiste contemporain. Il faut trouver un concept fort, et ça, voilà, il a un concept fort.
D'autant plus que son concept fort, justement, il ne va pas le kidnapper pour obtenir de l'argent, une rançon, mais justement pour qu'il crée des œuvres d'art, car l'art, finalement, c'est important, c'est ce qui reste un peu aujourd'hui pour oublier, pour rêver encore.
Mais l'art, ça construit du sens. Et ça, on ne lui enlève pas ça. Et donc, si, parce que quand même, dans les journaux, qu'est-ce qu'on dit de l'art? C'est combien on a vendu Pollock à la dernière vente aux enchères, combien on a vendu machin, et ce qui n'a absolument aucun intérêt. Mais ça, c'est les informations dans les... Si, finalement, si, on réduit quand même l'art à des chiffres. Et pourtant, l'art contemporain, en tout cas, travaille beaucoup sur le sens des choses, sur réagir. Et donc, c'était un bel endroit. Je pouvais pas faire de Richard un romancier qui allait écrire un roman. C'était idiot. J'allais avoir un beau serpent qui se mordait la queue. Donc d'en faire un artiste contemporain qui essayait de rendre du sens aux choses quand elles ont perdu le sens, ça me paraissait. Alors, est-ce que c'est le dernier endroit? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour les gens qui rentrent, qui poussent la porte des endroits où on expose de l'art contemporain, c'est quand même en partie pour se poser la question du sens de ce qu'ils vont voir. Et du coup, souvent, ça les interroge eux-mêmes sur le sens des choses qu'ils connaissent déjà. Et donc,
Mais Nicolas Ancion, ceux qui ne connaissent rien à l'art, c'est ceux qui ne connaissent rien au monde, parce que l'art, la beauté, elle est partout. Quand on vous lit, vous parlez des arbres, des couchers de soleil.
Oui, la beauté, mais est-ce que c'est l'art, un coucher de soleil? Ça, je suis pas sûr. Je pense que entre le coucher de soleil et une œuvre d'art, il y a quand même une différence du rôle de quelqu'un qui a pensé entre les deux. Évidemment, des gens sont persuadés que quelqu'un a pensé le monde à notre place. Moi, j'en suis pas personnellement convaincu. Donc, si on voit en Dieu un artiste, alors oui, tout est art. Mais cet alignement de verre très joli au-dessus du bar aussi. Et donc, oui, il y a des choses qui sont belles, bien sûr, partout. Ce qu'il y a, c'est que dans l'écriture, on a l'avantage que comme la matière qu'on utilise, les mots, ont un rythme, une forme, on peut parler joliment, bellement, je sais pas, mais joliment de choses un peu moches.
Mais Nicolas, si on le sens des mots, finalement, il est différent selon que l'on soit patron, ouvrier, journaliste, artiste, jeune ou vieux, parce que c'est ces différents tempos que vous déclinez à travers ce livre.
Oui, le sens des mots, le sens des choses, le rythme de la vie, tout ça est très très différent. C'est ça qui fait la richesse du monde dans lequel on est. Oui, je pense que dans ce livre-là, je suis en révolte contre beaucoup de choses, et notamment contre le fait que voilà, il y a une espèce d'uniformisation. Je vois un écran de télé là-bas, on est en train d'être filmé par de la télé. Enfin voilà, le monde est en train de se résumer à un machin qu'on montre sur écran d'une seule manière. En plus, tout est filmé de la même manière et tout est montré de la même manière. Et donc, c'est rare à la télévision. On ne voit jamais un vieux monsieur qui parlerait. On voit Jean d'Ormesson, mais Jean d'Ormesson, il parle à un débit qui est pas celui d'un vieux monsieur. Et puis à part Jean d'Ormesson, qui est-ce qu'on voit comme vieux monsieur, quoi? On en voit pas beaucoup d'autres, ou alors dans des émissions tellement tard la nuit. Moi, je trouve qu'il y a une richesse dans le fait d'entendre parler un enfant, d'entendre parler un vieux monsieur, de regarder comment, aux différents âges de la vie, on regarde la même chose. Mais mes enfants, quand ils étaient petits et qu'ils savaient pas lire et qu'ils se déplaçaient dans la ville, ils regardaient les enseignes, ce qu'on ne regarde plus nous comme adultes. Et donc, je sais pas, moi, ils pouvaient repérer, par exemple, que quand il y a un chevalier sur une enseigne, ça veut dire que c'est un café, ce qu'on ne pense pas nécessairement, mais c'est parce qu'en fait, il y a des chevaliers sur certaines bières et il y a... C'est pas parce qu'on vend des écus ou des armes ou des chevaux dans le truc en dessous. Et donc voilà, il y a des différentes manières de lire. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, je ne parle pas de ça dans mon roman, mais j'en parle maintenant. Voilà.
Alors c'est vrai que la télévision, vous en parlez à l'instant, vous en parlez également dans ce livre. C'est certainement pas de l'art et on peut peut-être sans doute s'en passer quand on vous lit, puisqu'à un moment donné, vous dites que la TV ne change pas vraiment, elle se contente d'empirer. Et puis vous avez une bonne formule, éteignez la télé, allumez la cervelle.
Oui, mais c'est une formule que j'ai lue sur un mur. Donc voilà, on peut lire des choses ailleurs que dans les livres. Et c'est un graffiti qui circule beaucoup à Carcassonne. Et je le trouve beau. Et j'aime bien parce que le graffiti, on le voit et en même temps, on ne sait pas qui l'a mis là. Et il est contagieux. Si ça se trouve, celui qui l'a bombé à Carcassonne l'a copié sur quelqu'un qui l'avait fait dans une autre ville de France, qu'il avait vu sur Internet. Enfin voilà, les idées circulent aussi.
Et donc là, l'art est bien partout parce que c'est une forme d'art également de mettre des mots dans les rues d'aujourd'hui. Alors c'est un livre qui parle également beaucoup de la dignité des êtres humains qui sont finalement la seule chose qui compte, le respect des gens qui passent par leur rêve et la dignité, et vous dites il ne faut jamais croire aux rêves, il faut se battre pour les faire exister.
Oui, ça je le pense. Est-ce que la dignité est la seule chose qui compte? Je ne sais pas. Moi, ça devrait être la chose, disons que je dirais que ça devrait être le soubassement de tout le reste. Si quelque chose vient à l'encontre de la dignité, ça ne devrait pas être tolérable. Je crois que quand on est choqué par des choses aussi graves que Guantanamo, les camps de concentration, des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose là qu'on n'accepte pas, qu'on fasse ça à des êtres humains, quelle que soit la chose qu'ils aient commise ou qu'ils n'aient pas commise, enfin, quels que soient les actes, il y a une dignité. Normalement, chez nous, il y a des droits de l'homme, il y a des choses. Et donc, notamment, je ne sais pas si ces droits de l'homme font une bonne chose avec la liste de... Je pense qu'il y a un respect humain qui est un respect qui devrait passer par d'autres choses que cette liste de droits, mais simplement par une manière de traiter les autres qui... Ben voilà, qui dans le cas de la pensée économique dont j'ai parlé au début, là, me semble être Voilà, on traite un ouvrier comme on traite une bobine de fil, comme on traite un litre de pétrole. C'est une donnée dans un tableau Excel et donc ça coûte, ça rapporte ou ça coûte pas, ça rapporte pas. C'est...
Et donc on est bien dans les chiffres, dans l'avoir plutôt dans l'être. C'est pour ça finalement que c'est un patron d'entreprise qui est kidnappé et pas un chef de parti ou un homme politique.
Oui, mais le personnage de Lakshmi Mittal, le patron d'ArcelorMittal que j'ai choisi de kidnapper, enfin de faire kidnapper par mes personnages, il a l'avantage d'être... on dirait qu'il a été fabriqué pour un roman, ce monsieur, parce que il a bâti sa fortune tout seul, sa fortune personnelle est directement... la courbe va exactement dans le sens opposé à celle du nombre d'employés en Europe, en tout cas. Donc, au même moment où, soi-disant, l'acier va mal et où il faut fermer, lui, sa fortune personnelle va très bien et il a de quoi toujours dépenser plus. Alors, c'est pas vrai, depuis que j'ai écrit le roman, grâce à la crise, à la crise financière et à la baisse de la livre, il ne vaut plus 35 milliards, mais 14 en euros, hein, donc tout ça. Parce qu'il a perdu plein d'argent virtuel. Je pense qu'il est toujours il est toujours le plus riche d'Angleterre, mais les Anglais sont beaucoup moins riches. Riche, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est quand même amusant. 35 milliards, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Concrètement, c'est pas 35 milliards de francs belges, hein, c'est 35 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent.
Et c'est vrai que vous soulevez le paradoxe. On n'a jamais autant eu besoin d'acier pour les voitures, pour ces fameux téléphones mobiles, et on n'arrête pas finalement de fermer les entreprises.
Mais on les ferme pas partout. Hein. On les ferme ici, mais on en ouvre ailleurs. Alors... Voilà, on laisse faire, mais je ne suis pas pour le protectionnisme particulièrement, mais il y a un mouvement qui est en train de se faire en 10-15 ans. L'acier aujourd'hui est fait en Amérique du Sud, il est fait en Asie, il n'est plus fait chez nous. Très bien, on a laissé faire, mais il y a un jour où on va juste, nous, être des consommateurs de machins qui ont été produits loin dans le monde, et puis il y a un jour où on aura dépensé notre argent, et où il faudra accepter que voilà, la Belgique a été deuxième puissance mondiale au début du XXe siècle. On voit où on en est maintenant, on n'est plus dans le top 10, on n'est pas dans le G20, on est loin, je ne sais pas où on en est, à quel chiffre exactement, mais il y a d'autres pays qui feraient mieux de se rappeler ça, que les cycles changent et que l'Angleterre n'est plus la première puissance mondiale, mais que les Américains ne vont pas être éternellement à la tête du monde, que d'ici quelques mois, je pense, ça va basculer.
Alors, sujet sérieux traité à travers ce livre, la perte des sens, de l'être au profit de la voix, mais finalement vous le traitez également avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour également.
Oui, plus que ce soir, donc je ne fais pas de petites blagues. Et donc, mais je pense que j'espère qu'il y a de l'humour parce que c'est un sujet grave et donc si on n'en rigole pas un peu, c'est pénible. Je pense que ça fait partie du devoir de l'écrivain de mettre de la distance avec ce qu'il fait. Et donc, moi, ma manière de mettre de la distance, c'est en même temps d'être dedans et un peu à côté, de permettre au lecteur et à moi aussi de m'amuser.
Alors Nicolas Ancion, est-ce que c'est vrai que certaines des plus grandes décisions de l'histoire humaine ont été prises dans les toilettes pour hommes?
C'est bien connu. C'est ce qui est génial avec la littérature, c'est qu'on veut sortir une phrase comme ça et puis ça a l'air d'être vrai. 16% des décisions de l'histoire humaine ont été prises dans les toilettes pour hommes. 16%. C'est une étude au bout de temps qui a révélé ça. Il y a une marge d'erreur de 16%, je pense. Voilà, donc c'est scientifiquement prouvé puisque j'ai donné les chiffres. Non, je crois qu'effectivement, je pense que par exemple dans le cadre de négociations qui sont très tendues et où on négocie pendant toute la nuit, c'est au moment où on décide on va faire une pause pipi qu'il y a des choses qui se lâchent. Et j'ai vu ça dans des jurys où on doit décider un truc et on débat pendant des heures et puis on dit allez on va s'arrêter etc. On sort, on va fumer une cigarette dehors, on s'aère et puis tout se règle. On rentre et la décision s'est faite parce que les choses ont macéré. Ou bien parce qu'on a vidé la vessie. Enfin, voilà. Parce
que... En tout cas, on s'est allégé. Voilà. Alors, vous parliez de la Belgique dans sa place dans le monde d'aujourd'hui. Également, dans ce pays, à part le roi et sa famille, tout le monde se plaint de son travail aujourd'hui.
Oui, mais j'espère qu'eux ne s'en plaignent pas, en tout cas. Parce que, oui, moi, je pense que beaucoup de gens se plaignent de leur travail. Quand je suis passé à Face à l'Info, à la RTBF, et l'ancien directeur de Cochril me disait que je mentais au sujet des ouvriers, qu'à Cochril, les gens étaient heureux de travailler, qu'il a été patron pendant plusieurs années, et que chaque fois qu'il descendait au fourneau, les gens étaient heureux. Alors, bon, Je ne vais pas lui donner des leçons sur ce, mais bon, pour avoir travaillé quand même en entreprise beaucoup, c'est quand le patron descend sur le terrain, évidemment que tout le monde sourit. C'est malin, première chose. Ensuite, une semaine plus tard, on annonçait que il y avait une descente de la brigade des stupéfiants à Charleroi, sur le, ancien site de Coqueril, aujourd'hui Arcelor, et qu'on y avait trouvé de l'héroïne du cannabis que tous les ouvriers avaient soit bu, soit fumé. Tellement ils sont bien au travail, ils font comme à la maison. Et donc, voilà, non, je sais pas si tout le monde déteste son travail, mais l'écrasante majorité, ça je pense que j'ai pas besoin de statistiques pour le dire, se plaint du rythme de travail. Je crois qu'on est dans un monde de fous, les gens qui ont du travail en ont trop et ne sont pas à l'aise avec le travail qu'ils ont, n'aiment pas nécessairement les relations qu'ils ont dans le monde du travail, et puis les gens qui n'ont pas de travail aimeraient bien en avoir, et je pense qu'on serait tous mieux à travailler 20 heures et se reposer le reste du temps, enfin, et vivre le reste du temps.
Et finalement, le reste du temps, vivre, c'est peut-être avoir le temps d'être avec ceux qu'on aime, parce qu'il y a des pages très touchantes vers la fin du livre, entre le monsieur âgé qui se retrouve à l'hôpital et la vieille dame, finalement.
Mais j'avais très envie... En fait, un des sujets du roman, c'est la ville. Comme j'avais écrit Quatrième étage, un roman qui se passait à Bruxelles, où pour moi, le sujet, c'était Bruxelles. Ici, le sujet, d'une certaine manière, c'est Liège. Mais Liège, c'est comme Bruxelles était un révélateur de la société à ce moment-là, avec ses inégalités, avec la coexistence de gens qui gagnent beaucoup d'argent et de gens qui n'en ont pas du tout. Et j'avais envie, dans Liège, d'aller chercher des personnes qui composent l'écrasante majorité des gens qu'on voit dans la rue en journée, par exemple, qui sont des personnes qui ne sont pas sur les mêmes préoccupations que celles qu'on voit justement, notamment en télévision, qui sont simplement des gens qui vivent et qui se sentent seuls, et qui, pour qui rencontrer quelqu'un, simplement rencontrer, parler avec quelqu'un, avoir une amitié qui naît, ça change une vie, quoi. Ça peut vraiment sortir quelqu'un
du quotidien
ou d'un certain désespoir. Enfin, dans son cadre, c'était vraiment d'une vie horrible, hein, puisqu'il était sous la peur constante de son fils toxicomane, et donc le jour où il va décider de changer la serrure et son fils ne rentrera plus chez lui, il peut recommencer à vivre.
Et puis faire cette rencontre, mais on n'en dira pas plus pour ne pas déflorer le livre. Alors vous l'avez dit, c'est un livre également sur Liège, son patrimoine, que vous mettez à l'honneur de Simenon à la Nouvelle Gare. C'est un peu votre rêve à vous dans le livre, certains rêvent de devenir détective. Vous, votre rêve justement, c'est que Liège vive justement à travers ses beaux côtés, avec tous ces artistes qui y vivent tous les jours.
Je pense que c'est la force de cette ville-là. Bon, je pense que toutes les villes ont des forces, mais qu'à Liège, il y a vraiment un foisonnement de gens avec énormément de créativité, avec énormément de liberté de pensée, avec plein d'énergie. Ils n'ont juste aucune idée de comment faire les choses. Donc voilà, ils ne font pas grand-chose, mais ils rêvent beaucoup. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'un jour... c'est Jean-Bernard Pouy qui disait ça dans une nouvelle qu'il avait publiée dans un journal liégeois. C'était un type qui disait au bar à un mec avec qui il buvait une bière, il disait « Mais quand est-ce qu'on fait la révolution ?» Et l'autre lui répondait « Bah, dès que les types comme toi se lèveront le matin pour la faire au lieu de se lever pour aller au café. Donc je pense que c'est assez juste. Et s'il y a une révolution à commencer un jour, à Liège, il y a du personnel pour engager. Disons qu'il n'y a plus beaucoup de personnel ailleurs que pour faire la révolution, je pense, à Liège. Donc.
Alors finalement, la ferveur de l'enfance et l'insouciance, c'est sans doute ce que l'on perd en devenant adulte, mais vous, en tant qu'écrivain, vous la gardez, vous nous la communiquez à travers les titres de vos ouvrages, pour n'en citer qu'un, on est tous des Playmobil.
Oui, ben, je pense que c'est ma chance, hein, moi, comme romancier, je vois comme c'est sain que les enfants jouent et qu'ils passent leur journée à rejouer avec leur Playmobil ou avec leur doudou. Quand ils ont un moment dur, les enfants, quand il y a quelque chose dans leur vie qui les tracasse, ils refont la scène. Mais vraiment, c'est de la psychologie toute simple, hein. Je les vois, je les observe, ils font des choses comme ça. Ma fille, en rentrant de la première journée de maternelle, elle a pris son doudou, elle l'a assis sur une chaise, elle lui a dit « Toi, tu t'assieds là et tu ne bouges pas. » Et il n'a pas bougé. Alors c'est formidable, c'est qu'en plus, elle a des talents de maîtresse. Et donc... je pense que nous, en tant qu'adultes, on devrait faire la même chose. En rentrant du boulot, au lieu de se dire « Putain, ils m'ont fait chier toute la journée !» Et hop, on boit un verre de whisky, on s'avale de médicaments et on se met devant la télé. On ferait mieux de sortir les Playmobil, un peu poussiéreux, les remettre en état. Et puis, et jouer avec, le jeu est une très bonne manière. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai la chance de pouvoir jouer à inventer des histoires. Je n'ai plus les Playmobil, c'est les mots que j'utilise, mais je fais la même chose.
Alors, toi, Nicolas, tu bouges pas, tu restes là pour terminer cette rencontre, alors pour rester dans le ton de la fille, et je vais demander une lecture, j'ai arbitrairement choisi le passage.
Oui.
Et après, vous pourrez rencontrer Nicolas Ancion, qui sera également un plaisir de vous dédicacer son nouveau livre qui vient de paraître.
Oui, au son du piano, mais on le dit
au son du
après.
Piano, on le dit juste après.
On le dit juste après, voilà. Petite surprise.
C'est la petite surprise. Voilà. Comme ça, le cadeau. Voilà.
Donc je lis là, à partir de combien voulez-vous, c'est ça?
Voilà.
Et je lis jusqu'où, comme ça je...
Non, on y va. C'est vous le chef.
Combien voulez-vous? C'est pas le passage, donc combien voulez-vous? Lakshmi Mittal a posé sa main sur celle du pseudo-journaliste. Il ne regarde plus ni ses doigts, ni la toile cirée qui recouvre la table. Il fixe le jeune homme droit dans les yeux. « Je ne comprends pas la question, patron. » L'Indien sourit. Il appuie sa main un peu plus fort. « Vous me comprenez très bien. Vous n'êtes pas un imbécile. Tout a un prix. Si vous m'avez emmené ici, c'est que vous voulez une rançon. Ça ne sert à rien de négocier avec l'extérieur. Le chef, vous le savez, c'est moi. Combien est-ce que vous voulez ?» Le jeune homme sourit. Il resserre les deux verres à ras-bord, pointe du doigt celui de l'industriel. Sans un mot, celui-ci vide le verre d'un trait. L'alcool lui brûle la gorge. Lui embrumera bientôt le cerveau, mais c'est encore trop tôt pour en être certain. C'est une question intéressante, celle-là. La presse affirme que vous êtes le quatrième homme le plus riche au monde. Mais c'est jamais que la valeur de votre compte en banque, de vos titres, de vos possessions. C'est un peu abstrait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir combien vous valez, vous, dans ce monde-ci, vous et rien que vous. Ça m'intéresse de savoir à combien exactement vous vous estimez. L'Indien reprend de l'assurance, les négociations. Voilà un terrain qu'il connaît bien. Quand deux hommes entrent en pourparlers, il y a toujours une issue possible. Il suffit de bien écouter et de proposer ce que l'interlocuteur attend, juste au bon moment. C'est tout l'art du commerce. L'un veut ce que l'autre possède et réciproquement. « Vous prenez le problème à l'envers, monsieur, » reprend Mittal. « Appelez-moi trou du cul, ce sera plus sincère, Mittal. Quand vous me donnez du monsieur, je n'entends que votre condescendance et votre sens de la flatterie fort aiguisée. Tout ça, c'est que de la surface. J'ai l'impression que trou du cul est plus approprié pour révéler votre pensée profonde. » L'Indien sourit à son tour. Le faux journaliste n'a pas tort, mais il n'est pas question de l'admettre. « Ici, je ne vous suis pas, monsieur. Je suis fâché, je suis anxieux, je suis inquiet, mais je ne vous méprise certainement pas. Il faut du courage pour se lancer dans une entreprise comme la vôtre, surtout à visage découvert. Je respecte ce genre de tempérament. Vous risquez gros dans cette aventure. Si on vous attrape, vous êtes bon pour des dizaines d'années de prison. De nous deux, patron, je pense que c'est vous qui risquez le plus. Un coup de barre de fer bien placé, juste là. Le ravisseur étend alors son bras et vient toucher la tempe de l'homme d'affaires du bout de l'index et vous quittez pour toujours ce coin-ci de la planète. Vous croyez avoir cette vie ? Je peux vous assurer que la probabilité que vous vous réincarniez dans l'une des trois personnes les plus riches que vous sur la planète est assez faible. Vous risquez largement de tomber sur pire, éboueur à Tbilissi ou mineur dans une carrière d'uranium au Niger. Ça vous tente ? Si j'étais vous, je tenterais de conserver ce que j'ai. Vous avez beaucoup à perdre dans l'histoire, mais combien exactement ? La question reste intéressante. Alors, à combien est-ce que vous estimez cette vie-ci ?
Voilà, merci Nicolas Ancion d'avoir été parmi nous.